au Salon du Livre de Paris avec Chris et Duhamel. Bonjour.
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 Alors on est ici pour présenter une nouvelle série qui vient de sortir, Les Brigades du Temps. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ?
Les Brigades du Temps, c'est l'histoire d'une organisation qui vient du futur, qui s'appelle l'Agence Uchronia, et qui est chargée de veiller au bon déroulement de l'histoire, puisque à cette époque très éloignée, on a découvert la façon de voyager dans le temps. Assez rapidement, cette agence se rend compte que des manipulateurs, faute de mieux, ils les appellent comme ça, s'amusent entre guillemets à changer l'histoire des événements tels qu'ils se sont déroulés, comme on le connaît actuellement, et que évidemment, ces changements historiques risquent à terme d'entraîner la disparition de notre civilisation. Alors ils montent des brigades. Donc du temps chargé à la fois de surveiller et surtout de réparer le temps quand celui-ci a dérivé un événement qui surgisse, ces déroutements de l'histoire surgissent un peu partout au long des époques. Voilà, au moment au début de la première histoire, c'est Christophe Colomb qui vient de mourir avant d'avoir découvert l'Amérique. Alors il faut très rapidement relancer un voyage de découverte et deux agents sont chargés de cette mission.
Pour l'instant, c'est le premier tome d'un diptyque. Est-ce que c'est prévu pour être une série et donc il y ait plusieurs diptyques ou des one-shots, pourquoi pas, à différentes époques, etc.
Oui, là-dessus, on part sur des diptyques dès le départ. On s'interdira pas de créer des one-shots sur telle ou telle histoire. Mais l'idée est une série, oui, très longue, avec des personnages récurrents. Et surtout de développer l'histoire à l'intérieur de l'agence, les rapports amoureux, amicaux, politiques également, puisque on n'aura pas toujours la même vision. Évidemment, quand il y a des changements historiques qui interviennent, on en discutait avec Bruno avant de venir, justement. Certains, si Hitler meurt avant de devenir dictateur, qu'est-ce qu'on fait? Ça pose évidemment des vraies questions. C'est le plus facile à dire, mais il y en a d'autres qui posent des vraies questions comme ça. Et donc, rapidement, au sein de l'agence aussi, vont apparaître des tensions sur ce qu'on doit faire de l'histoire précisément.
Et est-ce qu'il faut vraiment la défendre à tout prix?
Est-ce que c'était important de commencer par la découverte de l'Amérique et 1492?
Oui, c'était important d'une part pour commencer cette série avec un personnage que tout le monde connaît et pour pouvoir du coup introduire cette série en l'espace de 4 pages et nous laisser le temps sur un tome 1 de faire en sorte que ce tome 1 ne soit pas une simple séquence d'introduction, c'est-à-dire que Christophe Colomb, tout le monde le connaît, tout le monde imagine très vite l'impact d'une non-découverte de l'Amérique. Donc en 4 pages, l'introduction était bouclée et on pouvait commencer à développer vraiment une histoire, l'aventure d'une part, le développement d'un univers historique d'autre part et le développement de l'agence et le fonctionnement interne de l'agence au final.
Comment s'est fait votre association à tous les deux? Il y en a un qui a été chercher l'autre, qui a eu le projet?
Chris est venu me chercher. C'est un projet au long cours que Chris portait seul depuis pas mal d'années, qu'il avait tenté de finaliser avec plusieurs dessinateurs. Ça s'était fait plus ou moins bien selon les cas. Et au final, il m'a appelé un jour pour me demander si le projet m'intéresserait, en me proposant du coup une bible très complète, des scénarios déjà finis. Mais tout en me permettant, ce qui était très agréable de la part de quelqu'un qui a porté seul un projet, tout en me permettant moi de me réapproprier en grande partie ce projet-là, au moins autant graphiquement qu'en apportant des idées sur le scénario pour en faire aussi mon projet par la même occasion.
Ouais, si les gens pour tout dire, j'avais repéré le dessin de Bruno dès son premier album qui s'appelait Koshka, et déjà à l'époque j'avais pensé le contacter, et puis il y avait d'autres dessinateurs avec qui je travaillais, et puis finalement on a pu se rencontrer. Pour avoir travaillé avec plusieurs dessinateurs à partir du même scénario, j'ai par exemple quasiment 5 fois la première séquence. Donc si les gens doutaient encore de l'importance du dessin dans le scénario et donc vice-versa en réalité comment tout est imbriqué, ça vaudrait le coup de montrer ces différentes séquences, qu'on se rend compte qu'avec le même scénario à quel point on arrive malgré tout à des choses et des mises en scène et évidemment des impacts très différents.
Un projet masculin, vous avez pas de femme en fait dans votre histoire? Presque pas, enfin pas au début.
Pas au début, mais il y aura une femme, il y en a toujours une. C'est grâce à ça qu'on fout un peu le bordel dans une histoire. Surtout quand il y a deux personnages masculins. Et il y a un personnage qui intervient une première fois à la fin du tome 1 et qui va s'avérer être un des personnages principaux de la série, qui est une femme qui pour l'instant porte le nom de code de Joey, qui est une métisse, qui va apporter un point de vue assez différent au sein de l'agence Uchronia dans les prochains albums.
Limite violent, limite un peu porté sur la boisson et un bleu, c'était pas suffisant, fallait une femme en plus.
C'est aussi surtout que ça nous permet d'amener des rapports différents à l'histoire. Deux personnages ne suffisent pas, c'est-à-dire en l'occurrence, je n'ai pas tout dévoilé pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1, mais l'un des personnages d'Agui a un rapport particulier avec l'histoire. Il n'a pas la même histoire que tous les autres agents ukrainiens, justement. Stuart également a un rapport particulier avec l'histoire qu'on va découvrir bientôt, et Joey encore un autre. Donc cette variété de points de vue permet justement à chaque fois de se poser des questions et de ne pas avoir un rapport monolithique justement à l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Mais après, il faut nous laisser le temps. C'est-à-dire, comme c'est paru en une série au long cours, toutes ces choses-là vont se développer au fur et à mesure des aventures en parallèle.
Puis a priori, c'est vrai que pour calmer une brute qui a un certain penchant vers la boisson et faire un petit peu grandir une bleusaille qui sort à peine de l'école militaire en étant persuadée de révolutionner le monde entier, il n'y a rien de tel qu'une femme pour apporter un petit peu ces deux points de vue-là, pour calmer l'un et faire évoluer l'autre.
On se retrouve avec un traitement de bande dessinée franco-belge assez classique au niveau de la présentation, de l'histoire et tout. Est-ce que c'est vraiment stimulant pour écrire une uchronie et puis des choses dans la science-fiction? Ça rappelle un peu les premières heures de Spirou quand il y avait le savant fou qui bidouillait.
Oui, on est totalement là-dedans. Moi, je viens en tant que lecteur de justement du journal Spirou et les années 70-80. On a tous lu ça en long, en large et en travers. Sauf que je n'ai pas du tout démarré ma carrière avec ça, avec des récits très adultes, souvent très noirs, très différents. Donc j'avais pas trop de soucis à revenir vers quelque chose de plus classique, tout en se l'appropriant à notre propre façon. Mais on voit bien aussi avec le succès des intégrales aujourd'hui de toutes ces séries classiques, qu'en réalité, une bonne histoire et des bons personnages, ça reste relativement intemporel. Et on avait envie de retrouver ce plaisir-là, en tout cas scénaristiquement, je pense que graphiquement, Bruno également. Ouais.
Moi je pense que un dessin un peu classique, mais surtout très... influencé par l'école franco-belge, peut-être d'autant plus efficace pour introduire une partie noire dans un scénario qu'un dessin qui s'affiche directement comme étant un dessin adulte et un peu noir. C'est-à-dire que j'ai toujours trouvé beaucoup plus intéressant de parler de quelque chose de terrible avec un dessin plutôt rigolo. C'est un contraste que je trouve très efficace et très perturbant pour le lecteur aussi.
Est-ce que vous avez fait beaucoup de recherches, notamment sur les représentations historiques? Je pense aux tenues des marins, le bateau, rien que ça, de Christophe Colomb, ou est-ce que vous laissez un petit peu de liberté?
Non, j'ai fait énormément de recherches. J'ai pris 300 photos au musée de la marine de Lisbonne qui présente des très très belles reconstitutions des premières caravelles. J'ai cherché les costumes, j'ai cherché les cordages. Et après, je m'autorise pour autant à ne pas être réaliste jusqu'au bout. C'est-à-dire que je veux un dessin qui soit semi-réaliste et qui soit suffisamment expressif pour être dynamique le plus possible. Donc je ne vais pas hésiter à virer des cordages sur une caravelle pour me permettre d'avoir une meilleure lisibilité sur l'action qui s'y déroule. Mais je ne fais ça qu'après avoir passé des heures et des heures à chercher ma documentation.
Si vous étiez uchronien vous-même, qui iriez-vous aider? Enfin, à quelle époque iriez-vous aider des uchroniens?
Alors, c'est marrant parce que c'est souvent une question qui revient et je change presque d'avis à chaque fois, ce qui montre le nombre d'époques dans lesquelles j'aimerais bien vivre. Mais comme tu l'as formulé un peu différemment, tu as demandé qui est-ce qu'on voudrait aider. Et là, ça induit une réponse différente. Moi, indéniablement, De Gaulle. De Gaulle, tout simplement parce que j'ai un rapport familial. Mon arrière-grand-père a rejoint De Gaulle très très tôt, le 20 juin 40. Et donc, l'histoire familiale est très marquée par ça, puisque son fils, mon grand-père aussi, s'est investi là-dedans. Et donc, ouais, je serais assez curieux de côtoyer des personnages comme ça à ce moment où... Quand même, fallait un peu y croire en juin, juillet 40 pour se dire il y a cette espèce d'obscur général au fin fond de l'Angleterre et c'est là qu'est la vérité et qu'est l'avenir. Donc je pense que j'irai de ce côté-là.
Moi, je pense que je ferai assez vite partie des dissidents de l'agence Uchronia, tout simplement parce que j'ai évidemment très envie de voyager dans le temps et ça serait un vrai plaisir. Mais je pense que je le ferai pour aller observer en faisant très attention à ne rien toucher pour éviter d'avoir un impact monstrueux sur le temps comme un touriste peut avoir un impact monstrueux sur l'écologie à l'heure actuelle en faisant le moindre petit voyage. C'est vrai que je ferai sans doute partie des personnes qui se poseraient très vite la question de savoir s'il faut vraiment que tel ou tel bombe explose à tel moment, que le génocide précolombien ait lieu, et à remettre en question un petit peu l'ordre établi, dans le sens où est-ce qu'il est vraiment si important que ça de défendre notre civilisation? Est-ce qu'elle est vraiment à ce point parfaite qu'on puisse se permettre de la défendre à tout prix?
Quelle bande-son pourrait accompagner ce premier volume des Brigades du Temps?
Alors ça, c'est une bonne question. Alors que je travaille souvent mes albums en musique, j'ai une vraie bande son pour chaque album, donc c'est pas anodin. J'en ai pas eu spécialement pour les Brigades du Temps, si ce n'est pour toutes les scènes de découverte, enfin l'arrivée du bateau, où là on tombe évidemment sur des bandes son de films, enfin comme Mission principalement. C'est vrai que le Ennio Morricone reste une référence là-dessus assez absolue. Est-ce que j'ai écouté autre chose? Non, en tout cas, de la musique tribale, ça c'est sûr. Beaucoup de percussions, parce que on va mettre du rythme. Le tome 2, ça va pas rester joué.
Voilà. De la flûte de Pan.
Électrique.
Mais électrique, voilà.
Mais électrique.
Et saturé.
Voilà.
Pour terminer nos interviews, cette année, on a une question qui est celle-ci. Si on vous donnait la possibilité de donner vie à un de vos personnages, pas forcément dans les Brigades du Temps, pour qu'il vive de nos jours, qui serait ce personnage et que ferait-il ?
Je pense que je ferais vivre Dagobert Callaghan, Dagui, et que je lui ferais négocier mes contrats avec mon éditeur.
Ouais, ouais, c'est pas mal. Qui c'est que je ferais vivre, moi, comme personnage, comme incurant ? Moi, je ferais vivre Blutch, et puis on l'enverrait en Afghanistan, et après on verra.
Pour terminer, un mot sur l'ambiance du Salon du Livre ?
Ben, on n'a pas le temps de voir grand-chose encore, c'est un peu pas le problème, enfin bon, comme on dédicace, on répond donc aux interviews, etc. On n'a pas eu trop le temps, le samedi c'est pas la meilleure journée pour aller découvrir les stands, je crois que je vais en profiter, ou demain plutôt, quand il y aura un peu moins de monde. Le problème c'est qu'on pourrait y laisser sa chemise, quoi, il y a tellement de livres à acheter, alors on est un peu tenté soit de rien acheter, soit ben, de s'endetter pour 10 ans, alors pour l'instant j'ai pas encore fait le choix. Voilà.
Moi, je vais dire du bien de mon éditeur un petit peu quand même pour être sympa. Donc très bien organisé, on est aux petits soins avec nous, donc ça se passe comme une lettre à la poste.